Les controverses du village, épisode numéro 9. Bonjour à tous, ici Sullivan Le Postec. Je suis avec Émilie Flamand.
Bonjour.
Et Dominique Montet.
Bonjour.
On parle beaucoup de séries anglaises, souvent bien. Il n'y a pas que des grandes réussites. La preuve, la série Outcast, c'était une grande série de science-fiction sur BBC One, très attendue. Gros échec d'audience, changement de programmation au milieu de la diffusion de la saison et évidemment annulation. Il n'y aura pas de saison 2. Donc, qu'est-ce qui a amené à ça? Est-ce que c'était justifié ou non? Est-ce que cette série avait des qualités? Comment est-ce qu'on en est arrivé à ces conséquences-là? C'est la controverse du jour. Outcast, déjà, Émilie, est-ce que tu pourrais un peu expliquer à nos gentils poditeurs exactement, c'est comme ça qu'on dit pour les podcasts. Est-ce que tu pourrais expliquer à nos gentils poditeurs un petit peu de quoi ça parle, cette série de science-fiction?
Alors, l'idée de départ, c'est que la Terre est devenue invivable et que, bien, ce qui est à peu près l'idée de départ, beaucoup de science-fiction, et que donc les humains sont obligés de s'enfuir sur une autre planète. En l'occurrence, ils colonisent une planète. Pour d'abord commencer par une expérimentation, et ils envoient au fur et à mesure des gens dessus, et on arrive sur la série. Ça fait 10 ans, si je ne me trompe pas, que les colons britanniques donc, sont arrivés sur cette planète dans une sorte de petite cité qui se sont construites à partir autour du vaisseau, et n'ont plus de nouvelles de la Terre depuis le dernier vaisseau, donc je crois que c'est 5 ou 10 ans plus tôt. Et là, un nouveau vaisseau arrive, et donc ça commence comme ça, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui a évolué sur la Terre, qui est-ce qui va être dans ce vaisseau, et pourquoi est-ce qu'ils tirent tous la tronche sur cette planète.
c'est le mystère irrésolu le plus prenant de toute cette série.
Ce qui faut bien admettre, ils tirent quand même tous la tronche sur cette planète, mais bon. Donc voilà un peu l'idée de départ.
Avec un gros casting prestigieux, plein d'acteurs connus, enfin qu'on a vu dans. Enfin, c'est une production Kudos déjà, on aurait pu préciser ça. Donc grosse boîte de prod anglaise, c'est le Café Spooks et vraiment des kilomètres d'autres séries. Donc il y a cette actrice qui a joué dans Spooks, la blonde. Vous avez peut-être son nom, même pas.
Hermione Norris.
C'est un casting aussi international parce que dans le rôle du méchant il y a Eric Mabius,
voilà,
qui a joué dans à peu près toutes les séries américaines de l'histoire, et il y a Jamie Bumber qui est un acteur anglais mais qui est connu pour ses rôles dans les séries américaines et principalement Battlestar Galactica qui joue un guest dans le pilote. Donc voilà, gros casting, plutôt des bons acteurs d'ailleurs, dans l'ensemble.
Oui, à la base,
c'est ça, après.
Non, ce qu'il faut juste dire, c'est que bon, ça va être très spoiler. Donc si vous n'avez pas vu la série, écoutez pas le podcast, parce qu'on va vous spoiler quand même à mort. Ce qu'il faut juste dire, c'est qu'on nous a quand même vendu la série avec en star Jamie Bumber et qu'il se fait zigouiller à la fin du premier épisode. Ce qui est même un peu particulier pour celui qu'on a vendu comme la star de la série, il faut l'admettre.
Et si vous avez envie de regarder Outcast plus tard, n'écoutez pas ce que j'ai à dire. Surtout pas.
Allez, on va commencer par parler sur ce qui à peu près tous nous met d'accord. En gros, c'est une série qui a eu un très mauvais départ. Donc, alors il y a eu une diffusion assez étrange qui, à mon avis, trahit le fait qu'à BBC One n'avait pas super confiance. C'est-à-dire que, en fait, au départ, la programmation c'était un épisode le lundi soir à 21h et un deuxième épisode le mardi soir à 21h et rebelote la semaine d'après. Donc un début en passant comme ça 2 heures, 2 jours consécutifs et re-2 heures la semaine d'après pour essayer de faire passer vite le début de la série. Et en gros, la série a été condamnée dès ses 2 premiers jours, en fait, parce qu'elle n'a pas commencé avec des très hautes audiences et qu'en plus c'est le genre de série qui en perd, et en plus elle n'est pas bonne, donc elle en perd encore plus. Donc très très vite elle s'est retrouvée avec des audiences qui n'étaient plus possibles, quoi. Donc ce qui nous met tous d'accord, c'est que justement que le début de la série n'est pas bon, quoi, que le premier épisode est...
Non, ils ont fait des erreurs énormes qui sont pour moi des erreurs classiques, des erreurs qui sont dans tout genre de série, et qui sont aussi une méconnaissance du genre. Oui, parce que le scénariste principal le dit clairement, c'est pas un adepte de science-fiction du tout. Lui, son idée de départ, c'était une histoire de pionniers, en fait. C'était le concept un peu des pionniers, mais qu'il a transposé dans une science-fiction approximative. Et le problème, c'est que la science-fiction, ça a des codes. Ça a des codes qui permettent aux gens d'accrocher et de se repérer, et quand on les respecte pas, c'est juste un énorme bordel.
C'est pour ça que j'avais envie de parler de cette série, en fait, même si du coup, voilà, elle restera pas dans l'histoire de la télé britannique, mais parce que je trouve qu'en fait, on retrouve... C'est une bonne étude de cas, et on retrouve un problème, ce problème que tu viens de citer, qui est le problème qui a envoyé à l'abattoir toutes les tentatives, quasiment toutes les tentatives françaises de faire de la SF ou du fantastique, de la SF, je ne sais pas c'est qui on a vraiment essayé, mais c'est que souvent ça a été fait par des gens qui ne connaissent pas le genre, qui ne connaissent rien, et du coup ça donne, pour donner un autre exemple américain, ça donne Heroes, quoi. Le mec, il a jamais eu un comic de sa vie, il dit je vais faire une série sur les comics, et du coup il fait toutes les erreurs de débutant, et il réinvente le fil à couper de beurre, et il a l'impression d'être un génie, si tu veux. Donc, et ça devient vite, voilà. Toi Dominique, qu'est-ce qui t'a le moins plu dans le début de la série?
Oh punaise. Bah déjà, ce que disait Emily, donc notre point d'entrée dans la série, c'est le personnage de Jamie Mamber. C'est celui qu'on essaye d'avoir une pseudo-empathie pour lui, et en même temps, on essaie de le faire passer pour une sorte de psychopathe. Enfin, c'est assez paradoxe. Enfin, c'est foiré. L'insertion du personnage est complètement foirée.
C'est là qu'il y a souvent eu cet argument comme quoi le personnage de Jamie Mamber est censé être notre point d'entrée émotionnel dans la série. Et je ne suis pas d'accord avec cet argument, puisque le personnage de Jamie Mamber dans le pilote, c'est un espèce de psychopathe qui tire sur les gens et qui essaye de tuer son fils. Donc...
Super mal amené parce qu'on est censé prendre parti pour ce type-là.
On n'est pas censé prendre parti pour ce type-là, simplement tous les autres personnages sont tellement nuls.
Oui, c'est sûr.
Celui où on arrive le plus à se faire une connexion émotionnelle, c'est celui qui essaye de tuer son propre enfant. C'est pour vous donner une idée.
Mais en fait, le problème là-dedans, c'est qu'ils ont appliqué au pilote le schéma qu'ils ont appliqué à tous les épisodes suivants, qui est de dire qu'ils prennent un personnage qui n'est pas un des personnages principaux au départ, comme pour étirer son histoire et essayer de développer autour le reste de la mythologie.
Ça pourrait être intéressant, mais le problème...
Mais sur un pilote de série de science-fiction.
Alors pas sur un pilote de série en règle générale. Généralement, tu prends ton personnage central. Le problème, et ça je suis assez surpris parce que c'est Ben Richards, c'est ça, le créateur. C'est un romancier à la base. Moi j'ai tendance à me dire que les romanciers sont quand même très forts pour ce qui est de la caractérisation des personnages. Or là c'est complètement foiré. Et c'est pas que le problème du pilote, c'est le problème de toute la série. Il y a un problème de caractérisation des personnages d'entrée de jeu. Et alors le souci c'est qu'à partir de là on peut pas s'attacher à quelqu'un et on s'attache pas. En fait c'est un attachement mécanique parce que c'est la première personne que tu vois. Et c'est la personne qui t'emmène quelque part, c'est un peu le regard neuf. Donc le problème, c'est qu'après, c'est pas. Non, en effet, c'est pas un point d'entrée émotionnel, parce que le mec, c'est un psychopathe, il est barge. Et en même temps, tu comprends pourquoi il l'est, mais tu le comprends tellement tard que t'as pas eu le temps vraiment d'être en empathie pour lui. En fait, quand t'es en empathie pour lui, il se fait zigouiller. Et c'est un échec patent. Le pilote est un échec patent du début à la fin. Problème de rythme, problème d'histoire, problème de personnage. Et le souci, c'est que, à mon sens, ça ne s'améliore pas. Il y a toujours les mêmes problèmes par la suite. Le seul truc qui s'améliore, c'est le développement de l'univers.
Voilà, ça c'est. De toute façon, c'est ça, hein, moi, que je relevais par rapport aux deux quinzo que j'ai écrit dessus. C'est que quand on regarde les quatre premiers. On est toujours dans le flou, on n'avance pas forcément, on commence à la fin du quatrième, le quatrième commence à décoller un peu, à nous faire comprendre des choses, et c'est ça en fait, c'est que l'univers en lui-même, le fond, sa problématique, les différentes pistes qu'il lance sont intéressantes, c'est juste qu'elles sont gérées horriblement.
Et puis c'est d'une lenteur infâme.
Moi la lenteur m'a pas choquée. La lenteur m'a pas choquée, franchement, le premier oui, les deux premiers oui, après ça démarre un peu plus, je trouve.
Faut pas manquer de sommeil, quand même.
C'est aussi parce que au bout d'un moment, tu finis par accrocher à un personnage qui a un peu plus de... Enfin, plus de sens. Qui va être un peu plus guide dans l'univers avec ce duo Casse-Fleur. Tu t'accroches un peu plus à eux.
Ouais,
donc
alors,
derrière, ça te permet de suivre et d'avoir une évolution.
Il faut vraiment qu'on en parle de casser fleurs.
Alors moi, c'est marrant parce que c'est un truc, je suis d'accord avec Emily, sauf que je suis aussi d'accord avec Dominique. C'est-à-dire que je suis d'accord avec Emily quand elle dit que finalement, on arrive un peu à s'attacher à ces personnages-là, surtout à Fleur pour ma part. Et que d'un autre côté, je suis d'accord avec Dominique quand il dit que la caractérisation des personnages est nulle du début jusqu'à la fin de la série. Simplement pour moi, la seule chose qui fait qu'elle usure... on arrive à s'attacher à ces personnages-là, c'est purement le quotient de sympathie des acteurs.
Oui.
C'est-à-dire
oui.
que c'est pas un truc d'écriture du tout.
Ah non, non.
Mais simplement, c'est... comme les acteurs, et notamment la nana, elle a une super bonne bouille, elle est sympa, elle dégage quelque chose de là. Ouais.
C'est le quotient de sympathie et le temps à l'écran, tout simplement. C'est que c'est les deux seuls qu'on a récurrents tout le long de la série.
Oui, tout à fait.
Et qui, en gros, nous amènent dans chaque histoire.
Et c'est grâce à eux, tu vois un autre défaut de la série, c'est tu vois l'écriture. C'est-à-dire que c'est pas que ça se fait naturellement que tu tombes en empathie avec eux, comme tu peux le faire dans d'autres séries,
où
t'as des personnages secondaires qui d'un seul coup prennent énormément d'ampleur pour toi parce qu'émotionnellement tu le ressens. Là c'est juste, ah bah oui, donc le scénariste les met de plus en plus souvent, donc je vais plus m'habituer à eux, donc ça va être mes personnages
c'est
préférés.
C'est...
Alors sur le plan des personnages, moi je les ai, donc du coup, enfin je les ai tous pas aimés, à part Fleur et Cass, que par habitude et par usure.
Voilà. Par usure.
Sauf un, il y a quand même un personnage que j'ai fini par réussir à ce qui m'intéresse.
Le mec de la radio là ?
Non, au contraire, il y a rien.
Lui,
c'est le président.
Oui.
Ah ouais ?
Ouais. Je pense que c'est vraiment beaucoup l'acteur parce que je le trouve pour le coup vraiment absolument épatant.
Ah ouais.
et moi, il a réussi. Ouais, il a réussi finalement. Franchement, au début, je l'aimais pas du tout. Il me faisait vraiment. Hein. Au bout d'un moment, j'ai réussi à un peu comprendre où est-ce que le scénariste voulait en venir et c'est vrai que j'ai trouvé elles sont assez courtes et j'ai trouvé assez réussi les confrontations qu'il a notamment avec son double.
Ça d'accord, mais enfin le personnage, il passe son temps à prendre l'air concerné, à froncer les sourcils du début à la fin de la série. C'est une catastrophe
parce qu'il a rien d'autre à faire en termes d'écriture.
Il a rien d'autre à faire. Moi la bodinette de scénario, pour moi ça aurait été de l'éliminer à la fin du pilote. Il est insupportable.
Bah, c'était peut-être le début de la saison suivante, par contre.
Peut-être, oui. Je sais.
Parce que bon, vu qu'il y en a qui débarquent, il va bien y avoir un petit Vincent, mais
on
c'est
plus
ce qui était prévu,
hein,
mais bon.
Mais non, il est tellement mal écrit, mal dirigé. T'as l'impression qu'il a pas eu de caractérisation de personnage. C'est, tu prends l'air grave. Quoi que tu dises, tu prends l'air grave. Tu l'imagines très bien. Il faut que j'aille aux toilettes. c'est insupportable. C'est insupportable.
Au début, clairement, tu piches. Enfin... Sur la fin, je trouve qu'en effet, ça se justifie un peu plus entre le mec qui commence quand même à se demander s'il vient ma boule. On comprend que ses enfants sont morts il n'y a pas si longtemps que ça, il n'a plus personne. Il est président, c'est un énorme foutoir, il dit rien à personne. Bon, qu'il ait l'air un peu sombre, ça me choque moins. C'est vrai qu'au début, c'est comme tu disais, mais pourquoi il tire, pourquoi ils tirent tous la gueule. Et c'est vrai que le premier épisode, il y a un doute quand même. Merde, ils sont sains et saufs, c'est dans les rares qui sont sains et saufs, pourquoi ils tirent tous la gueule.
Et il y a un truc qui est super bizarre avec la série, c'est que donc Ben Richards n'est pas un grand fan de SF. Dans ses interviews, c'est compliqué, il avait les boules de ce qui s'est passé. Donc il a donné des interviews où il est un peu pet sexe, tu veux, parce qu'il a les boules.
Il faut quand même avouer qu'il s'en est franchement pris plein la gueule.
Et il s'en est pris plein la gueule.
Oui, ah, visiblement, forcément... il s'est pris des attaques personnelles.
La presse n'a pas été sympa et les internautes non plus.
Voilà. Donc je lui fais grâce de ça et donc je passe. Mais alors, dans certaines de ces interviews, il passe quand même pour un gros connard, quoi. À parler de tout avec une méga condescendance, genre à dire « Non mais qu'est-ce que c'est que ces crétins qui s'imaginent que je vais aller piquer Lost et Battlestar Galactica ?» De toute façon, je trouve ça nul, Lost et Battlestar Galactica. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Deadwood.
Ah ouais. Ah ouais. Oh là là.
Et ce que je trouve ça drôle, parce que vu la manière dont il le dit, qui est du coup vachement désagréable, tu sens, enfin, du coup, ça se voit qu'il est sincère quand il le dit. Mais putain, mais pourtant, sa série exude du Battlestar Galactica et du Lost par absolument tous les pores, quoi.
Ah oui, oui.
C'est terrible.
Les revirements de personnages, juste pour des besoins scénaristiques qui, d'un seul coup, font le contraire de ce qu'ils avaient fait au départ pour le bien de l'histoire, c'est constant.
Des tas d'éléments de l'univers, le traitement de la planète qui est exactement comme le traitement de l'île, des trucs de visuel, des trucs, les scènes avec l'épisode où il suit le mec sur la plage, les scènes où il saute dans la mer, etc. On dirait des extraits de Lost, quoi.
Empire. C'est une catastrophe
parce que tu vois
la direction, tu les vois, bon, cours à droite, cours à gauche. Et maintenant vous vous mettez tous les deux à genoux.
C'est
insupportable.
Il est coming next avec les percussions façon Battlestar Galactica. Enfin,
oui, ça oui.
Mais c'est incroyable de A jusqu'à Z.
Et puis même,
c'est un greatest hit.
Le côté camp, c'est exactement le début de la saison
le camp, oui.
3.
Mmh,
c'est ça.
Oui,
Battlestar Galactica, c'est exactement le même visuellement.
La fin de saison 2, début de saison 3.
Oui,
je vais souvent dire insupportable, je suis désolé, hein, mais.
c'est. C'est, pour tout vous dire, c'était un de mes moments durs de rédacteur en chef. J'ai dû forcer Dominique à regarder Outcast jusqu'à la fin.
Non, mais je quitte le village d'ailleurs.
Et à chaque fois qu'on se voyait, il me faisait des regards noirs et tout.
Suite au 15 de Dominique.
Bon, il y a un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est cette question. Un peu sur la question, en croisant la question de l'univers et la question du rythme. Donc. Au départ, un aspect traître de la série, c'est qu'on pourrait croire qu'en fait, c'est pas du tout de la SF, que c'est juste un truc de pionnier détourné par de la SF. Et puis finalement, en fait, assez vite, passé l'épisode 3, on voit qu'on a affaire à de la vraie SF.
Oui.
Et parce qu'en fait, on nous amène vraiment des tas et des tas et des tas et tas d'éléments. Et à côté de ça, je suis quand même d'accord avec ce que disait Dominique et Vincent. Qu'on a l'impression qu'il se passe rien, alors qu'en fait il se passe des tas de trucs.
Ouais,
il faut savoir que la somme d'éléments rassemblés en 8 épisodes, c'est équivalent à 2 ou 3 saisons de Lost.
Ouais,
quoi.
Ouais, ouais.
La quantité de mystère. Et en fait, le truc, c'est pas qu'il se passe pas assez de trucs, c'est qu'il s'en passe beaucoup trop.
Oui.
Et que du coup, tout est
de
et que du coup,
et
tout est superficiel. Mais du coup, tu t'investis pas dans chacune des pistes. On te balance un élément, pouf, ensuite l'épisode d'après commence, on te balance un autre élément. Et aucun mystère ne tient, aucun mystère ne te passionne.
Il additionne ses pistes narratives dans tous ses épisodes et il va même jusqu'au point où dans certains épisodes, on se dit « Ah tiens, celle-là, c'est la scène obligatoire où il y a Julius Berger qui va parler donc au personnage d'Hermione Norris pour lui dire que sa fille l'aime, en fait. » Ou alors l'inverse, il va aller voir la fille pour lui dire que sa mère l'aime. Et t'as ça pendant 5 épisodes quasiment. Presque, hein. Où tu vois donc Berger avec. Et tu te dis au bout d'un moment,
moi,
oui, ok, on a compris.
Moi j'ai un gamin qui a regardé que pour le regard de tueur, mais à part ça.
Vous savez quoi m'offrir à Noël ? Un dictionnaire de synonymes pour le terme insupportable. Mais non, le personnage de Julius Berger, non,
lui, c'est
horrible.
Il est trop, oui. Il est
côté machiavélique, regard en coin.
Et puis à chaque fois, oui, j'avoue que le plan, à chaque fois, justement, ce plan, on le voit comme ça, assis avec le regard qui tue.
Tu l'as vu, mes beaux yeux.
J'ai juste envie de le couper. Quoi,
et là où on a aussi une très très mauvaise gestion du mystère, c'est qu'il y a un mystère sur les motivations réelles de ce personnage. Qui est notamment un mystère, mais qui est même pas résolu dans la première saison.
Non.
C'est-à-dire que qu'on a un personnage qui du coup, comme ses motivations sont un mystère, mais il faut pas avoir de motivation sur le mystère du méchant. Si tu veux un méchant aux motivations mystérieuses, c'est Gargamel en termes de complexité de caractère du méchant, quoi.
Il y a aucune crédibilité dans ce personnage. Il change d'attitude à chaque scène. Encore une fois, pour le bien. De son histoire, il le fait changer d'attitude. D'un seul coup, il est super gentil, il est super doux. Puis d'un autre côté, il est super machiavélique. L'attitude du président à son égard est complètement surréaliste. Que d'un seul coup, il arrive, il commence à avoir des fidèles autour de lui.
Le côté bourreau, c'est un peu. Non, et puis même
chef
ça,
de secte,
son
et puis le président.
Espèce de petite boîte là, qui lui permet de communiquer avec le vaisseau. Ça, je l'ai trouvé franchement.
Le super bon cliffhanger, je parle dans une boîte à des gens mystérieux.
Ouais.
Ce qui est bien, c'est avec le côté gourou, c'est que ça fait partie des points où la série est à égalité avec Battlestar Galactica, c'est aussi nul dans tous les cas.
Oui,
Bayus Galter, chef de secte, ou lui, c'est pareil.
Et le truc, c'est pourquoi le président le nomme au conseil alors qu'il t'annonce avant qu'il arrive que ça fait chier s'il vient, qu'il est arrivé, faut se méfier de ce type-là. Et jamais tu sens que c'est un calcul, alors qu'il est censé passer pour quelqu'un d'extrêmement calculateur et intelligent, le président. Là, il est calculateur et con. C'est « Oh bah tiens, je vais le mettre au conseil, comme ça, ça risque pas de me péter à la gueule. » Ben non, bien sûr que non, et c'est exactement ce qui se passe.
Mais après, je vais encore être un peu... Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Globalement, je suis d'accord.
Ce podcast est terminé. Il est d'accord avec ce que je veux dire.
Ce qui n'est pas toujours le cas. Non, mais globalement, par contre... Par rapport à ce que tu disais sur les pistes, oui, il y en a beaucoup. Moi, personnellement, il faut savoir que Lost, ça m'a lourdé. Complètement, j'ai arrêté milieu de saison 3, j'ai pas réussi à me raccrocher parce que j'en avais marre justement qu'on me balance des pistes sans jamais rien me donner à manger derrière, quoi. Et l'avantage, c'est que là, ça s'est passé sur 8 épisodes, que si on coupe, en gros, ceux qui ont pas de pistes, justement, c'est limite sur les 5 derniers, sur 5 épisodes que t'as une pléiade de pistes. Et du coup, ça m'a appâté. Pour moi, le problème de cette série, c'est qu'il y a plein d'axes qui sont intéressants, qui sont pure SF, qui auraient pu être développés correctement si on avait su les développer correctement. Et en fait, faut juste, tu prends tout, tu enlèves plein de choses qui sont pourries, Et mais les pistes le font, vraiment, tu le gardes et tu peux en faire un truc
c'est
bien.
C'est une série de pistes, c'est une série de prémices, c'est un gros épilogue.
Mais un prémice, oui, mais après, ça dépend
comment,
ce que
comment
fais,
tu veux réussir.
Les développer derrière tes prémices.
Mais tu peux les développer. Mais dans ce cas-là, tu en prends un, tu le développes vraiment dans la première saison, ou t'en prends deux ou trois,
moi,
t'en prends pas 15, quoi.
Mais après, derrière, t'as des choses qui peuvent se recouper, t'as des choses qui peuvent... Le coup du vaisseau, par exemple, tu peux avoir des choses qui vont être en rapport avec le vaisseau. Derrière, t'en élimines une partie avec le vaisseau qui arrive, tu dégages des choses.
T'as les guerres de pouvoir, t'as donc une entité qui est présente sur l'île.
Ouais, ici.
Sur l'île.
Sur le...
sur la planète.
Bon lapsus. T'as les Aces. Ouais. T'as les origines des personnages. Tu as les gens mystérieux.
Le fait qu'il y a une vie humanoïde sur
laquelle parle Julius dans sa boîte magique.
Ah, le vaisseau. Ah bah oui, bah
le fait qu'il y a eu une vie humanoïde sur la planète, qu'est-ce qui est devenu, qu'est-ce qu'on devait
faire? Mais ça, ça va être lié aux autres.
Le fait, le premier mec qui a atterri sur la planète, qu'est-ce qu'il a fait pendant les années, qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qui lui est arrivé?
Rien n'est répondu. L'idée
de
réinsérer le premier.
L'idée de
réinsérer le mec, le premier, c'est intéressant. Mais au final, ça a donné quoi? Ça a donné l'occasion de faire se baigner deux personnages.
Et là encore, on est en plein channeling de Lost, c'est juste Rousseau 2.0 le mec.
Exactement.
Quoi. C'est terrible, absolument tous les éléments apparents, on peut les replacer soit dans Lost, soit dans Battlestar Galactica.
Il a pas une super carte.
Ce que je comprends pas dans cette histoire, moi, c'est que Kudos n'est pas, ne soit pas intervenu avant. C'est quand même pas des débutants.
Et tu me fournis ma super transition sur l'autre point que je voulais aborder.
Voilà. Ça, vous voyez, ça c'est du lien entre rédacteur et rédacteur en chef, vous voyez.
C'est la production de la série, en fait.
Oui.
Parce que d'une manière générale, je trouve qu'il y a un énorme problème de production sur cette série. Et que justement, j'étais très surpris de la part de Kudos, parce que c'est quand même vraiment
c'est
des pros, quoi.
C'est pas des petits joueurs, quoi.
Et là, il y a juste une somme de conneries de production... qui est donc ils ont enfin genre personne
ne serait-ce que le pilote tu le fais lire à n'importe qui, normalement tu le fais lire à des lecteurs qui sont extérieurs au projet, mais je veux bien que le mec qui soit à fond dedans il le piste pas, mais tu fais lire ce pilote à n'importe qui d'extérieur, il va te dire qu'il y a un souci
au niveau du développement et au niveau de la réussite du pilote. T'as l'impression de voir une série française moyenne.
Oui, puis d'une société de production qui démarre,
exactement,
qui n'a pas d'expérience,
qui sait pas se dire,
qui a jamais fait de série avant,
qui a pas de recul.
T'as l'impression que c'est une première œuvre.
Et après, il y a aussi énormément de
Ben problèmes. Richard, c'est pas non plus un débutant.
Non,
alors, après, le mec, il a écrit des épisodes de Spooks, etc.
Qui sont pas les meilleurs.
Non, mais qui sont valables en structure. Après, est-ce qu'il a essayé de faire
valable
du Spooks
en...
sur
Attends,
ça
valable en structure. Les premiers épisodes de Ben Richards, sur toutes les il faisait les ouvertures des saisons Adam Carter, en fait.
Ouais,
Ben Richards.
Bon, mais avec Et Adam c'était... Carter en même temps.
Ouais, non, mais c'était toujours des doubles épisodes où tu passais ton temps à froncer les sourcils en te disant, mais ça raconte quoi, ça va où, c'est quoi cette piste, c'est quoi ce truc. Personnellement, les épisodes de Ben Richards, j'ai toujours eu beaucoup de mal à les comprendre et à y trouver de l'intérêt. Et je suis, enfin, dans Outcast, c'est la même chose. C'est pas du tout limpide, son écriture est vraiment particulière. C'est pas complexe, c'est compliqué.
Que c'est une écriture particulière sur un truc comme Spook, ça me choque pas. Parce que Spooks, à la rigueur, tu t'en fous, t'as pas besoin que ce soit simple. Le contexte global de ta série, tu le connais, tu le comprends.
Oui, et puis tu connais tes personnages.
Voilà, des terroristes, les agents secrets, hop, ça se fight, et puis voilà. Bon, sur un truc de science-fiction, quand tu connais pas les personnages, quand tu connais pas le contexte, etc., si t'as une structure complexe, tu la mets pas tout de suite. Tu peux pas.
Après, pour continuer sur l'idée de la production, je trouve qu'il y a aussi plein de problèmes de production pratique, c'est-à-dire du tournage. En gros, c'est pour ça aussi que la série a été annulée, c'est que c'était un très très gros budget. On est vraiment dans la limite maximale de ce que la BBC peut produire toute seule sans passer par une coproduction. C'est tourné en Afrique du Sud. Et le truc à l'écran fait cheap à mort de chez mort, quoi. Et c'est pas une question d'argent, je suis absolument certain, parce que Battlestar Galactica, c'est un truc de Sci-Fi Channel, ils ont juste 3 francs, 3, enfin, ils ont pas de budget non plus.
Non.
Je suis sûr que Battlestar Galactica a pas plus d'argent en budget. Et je demande même à ce que... Enfin, je suis même pas complètement convaincu qu'il n'en ait pas moins, à la base.
Puis quand tu regardes, de toute façon, t'as pas 70 milliards de décors, quoi, donc...
La série fait cheapissime.
T'as l'intérieur du vaisseau, t'as quelques pièces, là, pour le pouvoir, on va dire.
T'as
4 baraquements, t'as 2 intérieurs de baraques. Oui, et t'as 10 000 personnes, tu les vois jamais, quoi.
T'as vraiment aucun sens
qu'il y a une ville
dans
ce... Tu vois le plan large avec la ville et tu ne constates rien. Si, tu les vois de temps en temps, tu les vois, et justement, eux, ils sont tous sourires.
pas faux.
Quand t'as les nouveaux qui arrivent, c'est limite s'ils ont pas des colliers de fleurs à leur donner. Ils sont tous sourires, c'est pissé de l'or, on vient de se shooter à la chaîne, ouais, bonjour.
C'est qui le mec qui fronce les sourcils, c'est le président, il est jamais content.
Parce que pour le coup, on se demande comment il arrive à se faire élire en se rendant sur la gueule. Parce que pour le coup, Battlestar Galactica arrivait très bien à faire, à donner l'impression qu'il y avait une vie dans cette flotte, ouais. En montrant dans un épisode par-ci par-là, tel fonctionnement de ci ou tel fonctionnement de ça. Ouais. Là, la série y arrive jamais. Il y a ce truc, mais qui m'est rendu fou pendant toute la série, qui est ces puissantes scènes de nuit dans la nature, dans la jungle, qui sont des scènes tournées toutes en plein jour dans le désert. Ils doivent faire 50
avec
à l'ombre. Les chasseurs, les acteurs suent sous le soleil, et en fait, donc il y a un vieux filtre noir et on dit c'est la nuit. Du coup, ils tournent des putains de scènes au coin du feu où faut surtout pas que la caméra filme le feu. Et s'il y a un plan large, c'est un feu éteint qui fume un peu. Genre, ça a vachement d'intérêt en pleine nuit d'être assis autour d'un feu éteint. Et le pire du pire, c'est qu'à la limite, tu pourrais dire, même si je pense que ça marche pas, mais tu pourrais dire, bah, c'est une autre planète, la nuit, ça ressemble pas à la nuit comme chez nous. Sauf que quand il y a une scène de nuit à l'intérieur du campement, bah là, c'est une vraie scène de nuit filmée à la vraie nuit, quoi, avec du vrai noir comme
ouais,
chez
parce
nous.
Parce qu'ils essaient de le jouer, et par moment, quand ils font les plans larges, ils mettent une espèce de lune ou un truc comme ça, donc tu vois, ils essaient de jouer le côté, ce n'est pas la Terre, et c'est puis, pour ça que ça justifie cette image.
Ça passe très mal, ça, tu
et
crois.
Et
j'adore les personnages qui disent, oh non, il faut que nous nous arrêtions pour la nuit, parce que nous n'arriverons jamais à retrouver notre chemin dans le noir.
Et, là, et toi, tu vois les cailloux blancs, et en plus, tu vois les gros cailloux blancs de partout, donc ouais, c'est limite, tu vois bien, quoi, où est-ce que tu veux marcher. Pas de soucis.
Et pareil, enfin, problème dans l'écriture de production, il y a l'épisode 3 en fait, alors complètement incongru, il montre une grosse catastrophe qui est une espèce de grosse tempête, truc muche bizarre de science-fiction.
Oui, oui.
Qui dit, mais pourquoi tu n'as pas mis ça dans ton pilot
Oui, non,
complètement. En l'occurrence, les effets qu'il montre à l'intérieur de la tempête sont plutôt réussis. Mais sauf que là où le script n'est pas géré, c'est qu'il essaie de nous montrer la transition entre le beau temps et la tempête. Ça marche pas. Ouais. Parce que, enfin, juste, il y a une réalité concrète qui est que c'est filmé en plein jour sous un grand soleil et que tu peux pas faire semblant que les nuages arrivent petit à petit. Enfin, il faut faire un cut, quoi. Et, enfin, donc c'est vraiment rempli de ce genre de problèmes de production qui. Enfin, normalement, une production sérieuse, elle se met autour des scripts et elle travaille sérieusement et elle efface tout ça, quoi. Je trouvais ça vraiment incroyable. Et ça fait vraiment sortir du truc, et que déjà qu'on a vachement du mal à y rentrer.
Oui, mais ça a été impossible d'y rentrer du début à la fin. Enfin,
moi, visuellement, au bout d'un moment, je m'y fais. Je vais pas dire que je raffole visuellement, mais visuellement, au bout d'un moment, bon, c'est bon, tu vois les images de nuit, au début, tu te dis, mais c'est quoi ce bordel? Après, bon, c'est tout, t'as compris que c'était la fausse nuit. Bon, ça, c'est tout. Au moins, enfin, moi, ça m'a pas empêché de rester dans l'histoire.
C'était les 4400 qui faisaient ça, je crois.
Mais par contre, moi, je comprends pas qu'en effet, globalement, sur la structure de la saison, sur l'écriture, il n'y ait pas eu un coaching différent, et même au niveau de la BBC. C'est un peu ce que je disais par rapport à Xanadu, où je comprenais pas déjà qu'Arte soit passé et laisser passer le truc tel que.
T'as l'impression qu'ils ont produit le truc trop vite, en fait.
Et qu'ils l'ont produit dans leur coin, c'est-à-dire que personne n'a jamais été regardé ce qu'ils faisaient. Alors, est-ce qu'ils faisaient l'Afrique du Sud ? Mais j'ai l'impression que la BBC même pas tant que ça a suivi le truc, et que Kudos, ils ont mis un stagiaire dessus, quoi.
Peut-être un excès de confiance de la BBC envers Kudos, justement. Oui. Ça dit, pour le coup, d'après les interviews de Ben Richards, il explique qu'en fait. Donc il avait écrit le script du pilote, là ils lui ont dit c'est bon, on commande les 8 épisodes, et il fallait, en fait il y avait un an avant le tournage, donc en un an il devait écrire 7 épisodes, plus faire toute la prépa, décider qu'on allait tourner en Afrique, faire le casting, tiens. Donc c'est chaud comme rythme quand même.
Il avait écrit le pilote et ils ont dit on fait une série de 8 épisodes.
Ouais, sur ce pilote là.
C'était le mois des stagiaires là-bas, quoi.
Et alors... Pour parler de la réal, quand même, il y a un truc qui m'a intrigué. Je suis pas sûr de l'avoir aimé, mais dans tous ces trucs, en fait, ça m'intéresse assez la manière dont la télévision anglaise cherche à expérimenter sur le style, sur le visuel, et à se renouveler, et à s'inventer un modèle qui soit visuellement intéressant tout en étant d'autres considérations budgétaires que le modèle américain. Mm-hmm. Ils n'ont pas les moyens de se payer les images américaines, en gros. Et là, par exemple, dans Outcast, il y a ce truc d'enlever les filtres qui empêchent le lens flare, je sais pas comment on appelle ça en français, quand il y a de la lumière, les distractions sur les lentilles des caméras. Donc ils enlèvent les filtres qui empêchent, en gros, ces lens flare d'arriver. Et du coup, là, il y en a il en a vachement, quoi.
Mais est-ce que c'est pas aussi pour justement contrebalancer leur pseudo nuit, parce qu'en même temps, si
c'est surtout enfin... dans les scènes de studio, en l'occurrence c'est le décor dans les couloirs, dans les bureaux,
Il y a une volonté maintenant de la télévision britanique de
proposer un spectacle,
de donner un style
ouais.
aux séries. Avant c'était du théâtre filmé, mais clairement quoi. Quand on regarde les anciens Chapeau Melon et Bottes de Cuir, c'est du multicaméra, c'est vraiment du théâtre filmé, ça vient de la tradition théâtrale anglaise en fait, la télé c'est une extension du théâtre, et là ça commence à devenir autre chose. Il n'y a pas vraiment de tradition cinématographique très forte en Angleterre, même si elle a donné naissance à grands réalisateurs et encore aujourd'hui, mais c'est pas une tradition de cinéma, c'est une tradition de théâtre, une tradition littéraire, puis une tradition télévisuelle par extension du théâtre. Et là vraiment on a, je pense que c'est par un souci, eux au moins ils ont compris ça, d'exportation, qui se disent on va enrichir l'aspect visuel. On voit une série comme Spooks, une série comme Spooks, ça viendrait des États-Unis, ça choquerait pas. Les arnaqueurs VIP Hustle, c'est une beau production, c'est très bien fait. C'est encore, tout ça, c'est des productions de Kudos. Hein,
et même enfin, les Sherlock récents.
Les Sherlock, c'est magnifique.
Les Sherlock, c'est même mieux réalisé qu'une série américaine. C'est incroyable, oui, visuellement. Quoi. Les épisodes de Paul McGuigan sont. C'est un festival visuel avec une. Chaque plan est réfléchi. Et...
Doctor Who, maintenant, comparé à ce qui se faisait avant, c'est du niveau visuel américain, mais avec du fond. Non pas qu'il n'y ait pas de fond dans les séries américaines, mais des fois ils mettent plus la forme que le fond.
En tout cas, voilà, c'était cet effet-là qui cherche aussi à donner le côté extraterrestre de l'endroit, en fait, ouais. À donner l'idée que la lumière ne réagit pas. J'étais pas, enfin, des fois, je trouvais ça un peu distrayant parce que du coup, il y en a un peu tout le temps, notamment dans le pilote. Ouais. Donc, la moitié du temps, on voit pas la gueule des acteurs parce qu'ils ont un gros putain de lens flare sur la tronche.
Et tu vois que tu te moques de moi au niveau des flous dans Misfits, mais tu vois que si on n'aime pas trop un effet,
ouais,
ça peut détourner.
Ouais, donc, c'est un peu le cas, ça m'a un peu. Ouais. Mais en même temps, je trouve ça intéressant qu'ils fassent ces expérimentations-là. Voilà. Ouais. Quelque chose à ajouter sur Outcast ?
Les dialogues. C'est d'une nullité abyssale. J'en ai noté un quand même dans le dernier épisode.
Il a bien préparé ça, le Dom.
Non, c'est juste que je voulais pas les oublier. Il y a une épidémie dans le dernier épisode.
Ouais.
Donc il s'appelle, je sais plus comment.
C24.
Voilà, le C24. Et puis il y a déjà une magnifique ligne de dialogue avec le médecin qui dit c'est pas tout à fait le C24, on l'a appelé le C25.
C'est pas tout à fait C24.
Et le plus génial, c'est que la ligne de dialogue avant, c'est est-ce que vous savez ce que c'est que ce virus ? Non, on sait pas du tout. Mais c'est pas tout à fait le C23, on l'a appelé le C24.
Bah, c'est formidable. C'est pas tout. C'est comme si, ouais, c'est pas tout à fait la grippe, c'est la grips.
Mais on sait pas si c'est la grippe, c'est peut-être la variole. On appelle ça la grippe pour l'instant.
C'est bien, on est un peu
les symptômes sont pas loin, mais bon.
Et donc il y a une petite fille qui est malade. Et il y a le président qui arrive dans l'hôpital, donc avec les sourcils froncés et l'air concerné. Et il y a le médecin qui vient vers lui et il dit au médecin comment s'appelle cette petite fille. Et là elle lui dit Esperanza. Et il lui répond il faut vraiment qu'on la sauve celle-là. Donc. Je sais pas si vous êtes familier du concept du sous-texte, mais quand ça atteint ce niveau, c'est quand même formidable.
C'est
à mourir de rire. Et derrière, dans toujours cet épisode qui, paradoxalement, est le meilleur, le 8e, paradoxalement...
Je peux trouver non plus. Hein.
Non,
j'ai trouvé assez mauvais, en fait.
Le 8e, pas trop.
C'est celui où il y a quelques pistes qui sont closes.
Ah ben, il faut bien, quand même. Sur ce game. Mais non, je dirais pas... Pour moi, c'est pas...
Bref, il y en a... Il y a donc Stella qui arrive. Donc Stella, c'est le personnage qui est joué par Hermione Norris. Donc qui a pas les sourcils froncés, mais qui a toujours l'air concerné aussi. Et...
Qui va avoir une belle ride d'expression sous peu, on va dire.
Parmi les malades, il y a un personnage avec qui elle couche dans le premier épisode, qui change de statut entre le premier et le deuxième. C'est-à-dire qu'avant, c'est juste un branleur qui tient une station de radio, et derrière, on apprend que c'est un scientifique brillant. Donc je ne sais pas trop, ou alors ils ont casté le même pour deux rôles différents.
C'est un scientifique brillant
qui rejette complètement
son génie
et qui veut.
Voilà, c'est un
qui
rebelle.
Qui veut être une rockstar.
Voilà, qui veut être une rockstar. Voilà, c'est un rebelle qui a des vinyles et tout, c'est super.
Ouais, il a un spectacle.
Et donc il tombe malade et il y a Stella qui arrive à l'hôpital et on lui dit il y a un patient qui est mort. Et elle dit c'est pas lui, j'espère. Parce que globalement, les autres, on s'en tape, quoi. C'est ça qui est formidable. Bah, et on lui dit non, c'est quelqu'un d'autre, et d'un seul coup, elle a l'air relativement soulagée, ce que je trouve quand même dramatique.
En plus, il vit plus loin avec sa fille, si je me trompe pas, il y a un moment, il est quand même vachement proche de sa fille, à cette époque.
Ouais, mais là, tu vois, ils auraient pu faire un truc glauque, un peu intéressant, où tu te dis, il couche avec la mère, il couche avec la fille, c'est un peu bizarre. Tu vois, tu pourrais avoir un intérêt particulier pour les relations des personnages, mais non. Mais voilà. C'est, et le per, alors, moi, le personnage de Fleur, même si on essaye de le rendre attachant, de le rendre sympathique et tout ça, c'est, t'as vraiment l'impression qu'elle a été insérée là pour avoir une dose de naïveté.
De positivité, en fait.
Et du coup, elle est tellement exagérément positive qu'elle en devient. Encore une fois, donc drinking game, à chaque fois que vous entendez insupportable, vous buvez. Elle est insupportable.
Tu le dis voilà. Au début, parce que là, ils vont devoir se refaire le podcast.
Exactement, il faut l'écouter deux fois, de toute façon.
Globalement, il y a scénaristiquement aussi, enfin, il y a plein de... C'est-à-dire qu'au-delà des grosses faiblesses macroscopiques, moi, ce qui m'a frappé, c'est les grosses bêtises scénaristiques qu'il peut y avoir, quoi. Dans l'épisode 4, il y a quelqu'un qui... Il fout quelqu'un en tôle pour dire non, c'est plus prudent, on va le mettre en prison. Le mec s'échappe de prison en défonçant la porte, quoi. Il dit ah, putain, ça valait le coup de le mettre en tôle. Et dans l'avant-dernier épisode, il y a un mec, donc il a un super secret sur son passé dark, parce qu'il a fait des choses sombres. Et donc on lui envoie une lettre, et du coup il court chez lui, voir vérifier que les preuves sont toujours dans son placard. Et donc c'est bon. Et donc là, bon, dans des circonstances complètement débiles, il couche avec une nana, et la nana qu'il connaît pas, comme ça, en 5 minutes, elle trouve les preuves et elle ouvre toutes les serrures. Enfin, c'était tellement bien planqué que la première personne venue le trouve en 22 secondes, quoi. Tu dis, quoi.
Ils ont vu la première saison d'Engrenage.
C'est à peu près le niveau. Bon. En gros, est-ce que malgré tout ça, est-ce qu'Outcast va laisser une forme de trace à la télé anglaise et à la BBC?
Moi, je trouve que ça sera une étude de cas. Ils n'ont pas de choix. Il faut qu'ils fassent un post-mortem dessus. Il faut qu'ils apprennent, qu'ils en tirent des leçons. Et après, avoir... c'est toujours le risque quand tu as un truc de science-fiction ou quelque chose comme ça qui se plante. Qu'est-ce que ça va provoquer comme réaction? C'est toujours le risque.
Ouais, moi, ce que j'ai peur, c'est que ça fasse école, en fait. C'est que d'un seul coup, la BBC se dise soit... on met plus autant d'argent sur une série parce que ça, c'est trop un risque, ou alors on fait plus jamais de projets de science-fiction de cette ampleur. Moi, j'ai peur que ça ait des répercussions assez mauvaises, ou alors au contraire que la BBC se dise jamais plus on laisse une série se développer sans qu'on soit à 100% dessus, qu'on remette tout en cause. Alors après, oui, je pense que ça va être un modèle, par contre c'est clairement un modèle négatif, quoi. C'est les choses à éviter. J'espère que derrière la BBC va pas mettre les freins à fond dans cette production.
Mais sachant qu'il y avait, on notait déjà depuis un an ou deux un vrai reflux des commandes de séries de genre fantasy, science-fiction. Il y avait beaucoup moins de commandes dans ce genre-là, et les gens en Angleterre, on avait parlé en janvier au FIPA à ce producteur dont j'ai perdu le nom. Mais qui nous expliquait que justement tout le monde, les gens qui aimaient le genre, ils attendaient un petit peu le résultat
d'Outcast.
Que Outcast
allait changer, ouais.
Et là, du coup, un peu douche froide. Donc est-ce que la BBC va un peu abandonner le genre pour l'instant? Il y a encore un ou deux projets qui doivent arriver sur BBC 3. Et cela dit, en fait, il y a le fait que Sky One, qui est un réseau satellitaire britannique, s'est lancé assez agressivement dans la fiction depuis un an à peu près là. Et eux aussi commandent des projets de fantasy, de fantastique. Donc malgré tout, voilà. Notre source britannique pour les amateurs de genre ne va pas se tarir totalement, a priori.
Heureusement.
Bon, et ben voilà pour Outcast. On est un petit peu taillé un bon petit costard, là.
Pas du tout. Nous avons été très tendres. Je croyais que Dominique allait venir avec carrément de quoi la disséquer. Donc non, c'est pas.
Ce n'était qu'amour. On se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast, vraisemblablement enregistré sur le site de la prochaine Comic-Con, le festival des cultures de l'imaginaire, justement de la science-fiction, du fantastique, tout ça, dans à peine un mois, du 30 juin au 3 juillet. On se retrouve donc là-bas bientôt. Bonjour chez vous.